Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et l'on commencera cette édition par la victoire écrasante en Tunisie de l'universitaire Kais Saied à la présidentielle. Ce théoricien de la Constitution aux convictions conservatrices a été plébiscité hier avec plus de 70% des voix selon les sondages. Nous entendrons ensuite l'alerte de familles françaises de djihadistes. Face à l'offensive turque sur la Syrie, elle demande le rapatriement en France des enfants de djihadistes. Et puis quel poids a l'État dans l'utilisation du chlordécone ? Ce pesticide cancérigène a rendu malade la population en Guadeloupe et en Martinique. Une commission d'enquête auditionne à partir d'aujourd'hui 4 ministres. Les Tunisiens attendent beaucoup de lui. Kais Saied a été élu hier président de la Tunisie. Ce juriste, au visage impassible, a recueilli plus de 70% des suffrages face à Nabil Karoui, patron de télévision, tout juste sorti de prison. Kais Saied, lui, incarne aux yeux d'une majorité de Tunisiens une forme d'intégrité dans un pays où la corruption est importante. Ils étaient donc nombreux, heureux, hier soir dans les rues de Tunis, Christian Chesneau.
À peine les premières estimations connues, la foule des partisans du nouveau président a envahi l'avenue Bourguiba en plein centre de Tunis. Beaucoup de jeunes, des familles avec leurs enfants venus fêter la victoire de leur candidat dans une ambiance joyeuse.
Il est très honnête, très sérieux et il parle des jeunes, surtout des jeunes. C'est nous, on voit nous, on casse ça. Et la jeune d'esprit, on n'a pas besoin des vieux et des vieux dans la mentalité, dans l'esprit, dans le travail. On n'a pas besoin de la politique, on a besoin de nous.
En début de soirée, Kais Saied a dédié son écrasante victoire à la jeunesse qui a massivement voté pour lui.
Merci aux jeunes, aux vieux et même aux enfants qui ont ouvert une nouvelle page de l'histoire. Glorieux peuple tunisien, tu as donné aujourd'hui une leçon au monde entier.
Personnage atypique, au visage impassible, Kais Saied est perçu comme le nouveau monsieur propre de la Tunisie.
C'était Christian Chesneau, envoyé spécial de France Culture à Tunis. Au chapitre des élections encore, et un résultat là aussi sans appel, les conservateurs polonais emportent largement les législatives. Un sondage à la sortie des urnes hier soir évoquait 43% des voix en faveur du parti Droit et Justice de Viktor Orban. Une nette avance donc sur l'alliance centriste parti Droit et Justice au pouvoir en Pologne et non pas en Hongrie. En Hongrie, le parti là de Viktor Orban a subi une défaite à Budapest hier. Budapest, la capitale hongroise, c'était les municipales. Et l'opposition signe son plus grand succès électoral en Hongrie depuis 10 ans en devançant le candidat du Fidesz. Combien de proches de djihadistes se sont déjà évadés dans le nord-est de la Syrie ces derniers jours? 800 selon les autorités kurdes qui les détenaient jusque-là, mais qui font face depuis le milieu de semaine dernière à une offensive turque. Face au flou ambiant et aux dangers potentiels, des familles françaises de djihadistes ont lancé hier un appel au gouvernement. Elles demandent à ce que les enfants soient rapatriés de toute urgence en France, Delphine Evenou.
Combien sont partis et dans quelles conditions? Difficiles de le savoir. Certaines de ces femmes françaises ont pu joindre leurs proches et leur ont expliqué que les Kurdes avaient ouvert les portes. Thierry Roy fait partie du collectif Familles Unies. Il est très inquiet.
Une fois qu'elles ont quitté les camps, elles n'auront plus à manger. Elles ont aussi des enfants qui sont en bas âge, qu'il faut nourrir, qu'il faut soigner. Et puis en plus, moi, il faut rappeler, ces enfants-là, ils sont innocents.
Pour sauver ces enfants, il faut, martèle-t-il, les rapatrier avec leurs parents en France et en urgence, vu la situation chaotique dans le nord de la Syrie.
C'est très simple. On s'adresse très simplement au gouvernement turc et puis on leur dit qu'on procède au rapatriement de nos ressortissants et on demande un cessez-le-feu.
C'est aussi ce que demande Maître Marie Dosé, qui représente plusieurs femmes et enfants détenus en Syrie, excédée que le gouvernement français ait laissé pourrir la situation.
Moi, lorsque je demande depuis 2 ans ces rapatriements, c'est évidemment sur un registre humanitaire parce que des enfants sont innocents et qu'il faut les sauver, mais c'est aussi sur un registre sécuritaire parce que notre refus de les rapatrier fait qu'on leur livre à l'État islamique. On est en train de gonfler les rangs de l'État islamique. On aura quand même vraiment tout échoué dans cette affaire.
C'est en ce moment que se fabriquent les attentats de demain, prévient l'avocate.
Le président français, lui, Emmanuel Macron, évoque un risque, une catastrophe humanitaire. Il réunissait hier un conseil de défense restreint à l'Élysée. Il a été décidé que la France allait prendre de manière imminente des mesures pour garantir la sécurité des personnels français, militaires et civils présents dans le nord-est de la Syrie. Un peu plus tôt à l'Élysée également, c'est avec la chancelière allemande que le président français s'est entretenu. Angela Merkel appelle elle aussi la Turquie à cesser son offensive.
J'ai parlé une heure avec le président Erdogan. Nous devons, bien sûr, tenir compte des besoins de sécurité de la Turquie. Mais nous pensons aussi qu'il faut mettre un terme à cette invasion turque pour des raisons humanitaires. On ne peut pas accepter cette situation contre les Kurdes. Il faut absolument trouver une autre solution.
Die doch sehr erheblich ist und deshalb müssen hier andere Lösungen gefunden werden.
Angela Merkel à l'Élysée hier soir. Nous analyserons l'influence possible des Européens et notamment de la France sur cette offensive turque dans le journal de 7 heures. Avant cela, à 6h36 sur France Culture, nous nous penchons sur le chlordécone, un insecticide classé comme cancérigène possible, longtemps utilisé dans les bananeraies aux Antilles. Il est suspecté d'être à l'origine du taux élevé de cancer de la prostate en Martinique et en Guadeloupe. Aujourd'hui, 4 ministres seront auditionnés à ce propos par des parlementaires, les ministres de la Recherche et de la Santé, puis dans quelques jours, celui des Outre-mer, puis le ministre de l'Agriculture, qui tous devront répondre aux questions d'une commission d'enquête. Elle va notamment revenir sur la genèse de ce scandale, Véronique Robérotte.
Quand le chlordécone est reconnu comme étant un cancérigène possible en 1979 par l'Organisation mondiale de la santé, ce pesticide ultra toxique est déjà utilisé depuis plusieurs années aux Antilles pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte ravageur. Il le sera encore de longues années, épandu copieusement jusqu'en 1993 outre-mer en vertu d'une dérogation gouvernementale. Les États-Unis ont interdit son usage depuis la fin des années 70. Un scandale français. D'autant que ce pesticide, véritable poison pour la santé humaine et l'environnement, est du genre persistant. Sa substance ne disparaît pas du jour au lendemain. Sa persistance dans les sols est évaluée à plusieurs centaines d'années. Le chlordécone produira des effets sur plusieurs générations. Au-delà des procédures judiciaires en cours contre l'État pour faute lourde, l'enquête menée par la commission d'enquête parlementaire aura deux missions principales. Examiner les conséquences sanitaires, environnementales et économiques du chlordécone. Elle doit aussi étudier les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de l'autorisation du pesticide aux Antilles et évaluer la nécessité et les modalités d'une indemnisation des préjudices. La commission d'enquête parlementaire doit rendre son rapport début décembre.
C'était Véronique Robérotte pour France Culture. À l'Assemblée nationale également ce lundi, le projet de loi de finances pour 2020, il commence à être examiné. 3000 amendements ont été déposés. Le texte valide notamment la diminution de 2/3 de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui la payent. Cela se fera à l'automne prochain, en 2020. En échange de cette suppression de la taxe d'habitation, le gouvernement s'est engagé à compenser à l'euro près ce manque à gagner pour les collectivités territoriales. Mais les élus craignent déjà que l'exécutif ne trouve une parade à leur jumet.
L'augmentation de la taxe d'habitation dépend de deux paramètres. D'abord, ce qui est voté par les conseils municipaux et qui donne lieu d'ailleurs chaque année à des polémiques. Et puis, et ça c'est indépendant de toute décision politique, il y a ce qu'on appelle la valeur locative du bien. Elle est revalorisée chaque année au-delà de l'inflation. Eh bien, pour l'an prochain, le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait plus de hausse de cet ordre. La valeur locative serait gelée. Argument invoqué, il n'y a pas lieu d'augmenter un impôt en train de disparaître. Le problème, c'est que c'est un manque à gagner de 250 millions d'euros pour les communes, d'où la colère des associations d'élus qui ont lancé l'alerte. Et elles ont eu à l'oreille des députés de la majorité. La semaine dernière, en commission des finances, ces derniers ont ainsi rétabli cette ressource, en la limitant un peu toutefois. Reste à savoir si le gouvernement suivra en séance ou en restera à sa position initiale. Au risque de mécontenter des élus déjà sur la réserve, ils craignent que la suppression de la taxe d'habitation ne soit pas compensée à l'euro près. Des élus que le gouvernement essaye justement de choyer en ce moment avec son projet de loi Engagement et Proximité pour revaloriser le statut de l'élu.
Christian Jacob est élu président du parti Les Républicains. Il emporte plus de 62% des voix devant les députés Julien Aubert et Guillaume Larrivé. La participation est plus forte que prévu chez Les Républicains puisque 47% des adhérents se sont exprimés hier. Christian Jacob a déjà précisé qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2022 pour la droite. Une nouvelle perturbation pluvieuse arrive ce lundi par l'ouest en France métropolitaine, de l'Aquitaine jusqu'à la Normandie ce matin, puis jusqu'aux Hauts-de-France et jusqu'à l'Occitanie cet après-midi. 17 départements sont en vigilance orange aux orages sur l'ouest et le centre. Ailleurs, il fera beau. Comptez ce matin 13 degrés à Brest, 18 à Paris, 24 à Marseille.